Bon milieu de semaine tout le monde, j'espère que ça se passe bien pour vous. Beaucoup de choses à discuter ensemble à l'émission en deuxième heure. Déjà, je vous le dis tout de suite, soyez là tout à l'heure. Le comédien Benoît McInnes va être avec nous en entrevue sans filtre. On va revenir aussi, après notre discussion sur les dangers de la technologie 5G, on va revenir sur la façon dont les compteurs intelligents que Hydro-Québec nous a installés il y a plusieurs années. On va revenir sur la façon dont ces compteurs-là peuvent affecter votre santé. Il y a d'autres, en ce moment même, pourquoi on vous en parle ce matin, c'est que le Nouveau-Brunswick est en train d'évaluer la possibilité de mettre cette technologie des compteurs intelligents aussi partout dans la province. Il y a l'Ontario également. On va se baser un peu sur l'expérience du Québec. Alors, on va regarder c'est quoi notre expérience et justement ici avec ces compteurs intelligents. Il y a encore des gens, dont moi, qui ont un compteur traditionnel qui paye pour, mais là, Hydro-Québec veut plus aller lire ces compteurs-là parce qu'ils disent que c'est pas payant du tout, ça coûte plus cher à gérer que l'argent que les consommateurs qui veulent garder cette technologie un peu ancienne, dit-on. Eh ben maintenant, il va falloir s'arranger avec nos troubles, d'après ce que je comprends. On va parler de ça donc en deuxième heure d'émission. Et puis, bon, ben il y a la question des sacs de plastique qui revient dans l'actualité. Là, on veut carrément s'en débarrasser. Bonne discussion qu'on va avoir dans une demi-heure là-dessus avec des spécialistes. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais je veux vraiment revenir sur la question des libérations conditionnelles, le meurtre de cette jeune femme, Marilyn Lévesque. On continue après plusieurs jours à s'étonner, pardon, de ce qui s'est passé. Et surtout, on parle beaucoup des travailleuses du sexe aussi. Il y a eu toutes sortes de jugements, de préjugés qui sont véhiculés, je trouve, un peu trop facilement. Pourquoi les filles continuent de travailler? Pourquoi elles continuent de vendre leur corps? Qu'est-ce qu'elle faisait là, cette fille-là? On sait bien, 2000 piastres, pas capable de dire non. C'est bon, on entend toutes sortes de choses et les réseaux sociaux, on les connaît, se ramassent de toutes sortes de commentaires peu nuancés. Ça nous amène, nous, ce matin, à réfléchir, à le prendre d'une autre façon. Et j'ai ma collègue de Cogeco Nouvelles, Sabrina Rivet, qui est allée justement rencontrer des travailleuses du sexe pour voir un peu comment elles vivaient, ce qui, pour certains, peut être un choix pas évident. Merci d'être là, Sabrina. On a entendu, justement, certains témoignages ce matin à l'émission de Paul Arcan. Ça t'a troublé profondément aussi de rencontrer ces femmes-là.
Ça m'a littéralement ouvert les yeux sur ce domaine qui est peu connu, je dirais, du grand public. Oui, on en parle quand même régulièrement, mais les difficultés que vivent ces femmes-là, on n'en parle que très, très, très peu souvent. Alors oui, je suis sortie complètement chamboulée de ces rencontres-là parce que hier, en après-midi, je me suis rendue dans un organisme ici à Montréal pour aller rencontrer certaines travailleuses du sexe. Il y en a pour certaines que ça faisait à peine quelques années, quelques mois, qui œuvraient dans ce domaine-là. Et pour une d'entre elles, ça faisait 20 ans qu'elle travaillait comme travailleuse du sexe. Alors pour moi, ça a été un constat troublant parce que je leur ai demandé d'entrée de jeu, est-ce que le cas de Marilyn Lévesque vous a marqué la semaine dernière, le fait qu'elle a été assassinée du côté de Québec? Et pour elle, elles m'ont répondu non. Pourquoi? C'est-à-dire qu'elles ont dit, on vit tellement dans un monde de violence. Mmh. Pour nous, des agressions physiques, verbales, des agressions sexuelles, on peut en vivre à tous les jours. Je dis pas que chaque femme en vit chaque jour, mais somme toute, c'est un milieu qui est très violent pour les femmes. Alors, je me suis dit, ah, mais dans quel milieu elles évoluent? Et pour elles, c'est quand même très difficile de se dire qu'à chaque fois qu'elles vont faire un client, elles ne savent pas à qui, en fait, elles peuvent faire affaire.
Et ça peut être un gars bien fin.
Exactement.
Mais ça peut être aussi un psychopathe.
Ben oui.
Puis ce qu'on a appris au cours des derniers jours, Sabrina, c'est que, encore ce matin, on fait ressortir le fait qu'il y a plus de 70 % des commissaires fédéraux, libération conditionnelle, qui ont moins de 2 ans d'expérience. Puis apparemment, les deux qui ont décidé du sort de Marilyn Lévesque, puisque finalement, ils ont pris la décision de libérer Galési, ce qui a amené à son assassinat à Marilyn dans un hôtel, c'est qu'ils sont peu habilités, finalement, ces deux gars-là, à gérer le risque. Il y avait moins d'un an d'expérience, puis ils ont jugé que le risque était gérable. Grosse erreur. Mais tu sais, c'est toute la question du sexe en prison aussi. Est-ce que c'est un service essentiel?
Oui, mais la problématique aussi également là-dedans, c'est que les femmes, lorsque en fait elles rencontrent des hommes, bien elles ne savent pas en fait, elles n'ont pas leur dossier criminel entre les mains. Et bon, hier je vous l'ai mentionné, j'ai rencontré quand même plusieurs femmes, dont qui a décidé de me parler, mais elle est âgée dans la trentaine. Je vais pas dire trop d'informations. Et d'ailleurs, c'est un nom fictif. Elle m'a mentionné que oui, c'est très difficile dans le fond de savoir à qui elle fait affaire. Et tout de suite, on va aller l'écouter.
C'est pas un milieu qui est sécuritaire. Ça dépend comment qu'on le fait, mais souvent, il y a des proxénètes. Ça peut être individuel. On sait jamais quel client on peut avoir. J'avais quelquefois 16 clients par journée.
Alors, comme elle l'a mentionné, parfois 16 clients par jour. Alors, c'est très difficile de savoir avec quel homme elle fait affaire. Et comme je le disais, elle ne regarde pas leur pedigree et leur dossier criminel avant nécessairement de les rencontrer. Et là, cette fois-là, ça s'est quand même bien passé pour la majorité des cas, mais ça peut arriver qu'elle rencontre des hommes qui sont violents, là, en fait, là, lorsqu'elle fait des rencontres avec des hommes.
Et t'as rencontré une jeune femme qui, elle, a échappé, en fait, elle a été violée par plusieurs hommes.
C'est épouvantable, cette histoire-là, parce qu'il faut comprendre que lorsqu'elle travaille dans des salons de massage, par exemple, il y a de la sécurité, il y a même certains hommes qui sont bannis de plusieurs centres de massage, donc c'est quand même sécurisé. Mais je vous dirais que dans la plupart des cas, les femmes, ce qu'elles m'ont dit hier, c'est qu'elles vont rencontrer des clients non pas dans des salons de massage, mais bien dans des résidences personnelles, également dans des chambres d'hôtel. Alors à ce moment-là, il y aura pas nécessairement de protection. Et elles m'ont expliqué qu'à ce moment-là, c'est très difficile de savoir sur quel homme elles vont tomber. Et là, encore une fois, non fictif pour ne pas qu'on puisse l'identifier. Elle a 27 ans. Elle s'est rendue directement chez un client l'été dernier. Elle devait être seule avec lui. C'est ce qui avait été convenu via message texte. Mais ça ne s'est pas passé ainsi. On va l'écouter.
À la base, je devais rencontrer juste un client. Je suis rentrée dans sa maison, puis on est descendu au sous-sol. Puis une fois rentrée dans sa chambre, j'ai entendu des gens descendre les marches, en fait, puis j'ai été prise. J'ai été séquestrée pendant 2 jours, attachée. Puis on m'a laissé partir avec les menaces de me battre, de me tuer, de me retrouver si je dénonçais. Et j'en ai jamais parlé.
Mon Dieu, pauvre jeune femme.
On peut sentir dans la voix...
Deux jours séquestrée.
Puis
là, ce que je comprends, Sabrina, c'est qu'elle n'a pas porté plainte là, à la police.
Elle n'a pas porté plainte parce qu'elle a peur, en fait, des représailles de ces hommes-là. Et puis, je lui ai demandé, as-tu... Je ne l'ai pas rentré trop dans les détails, mais je disais, est-ce que tu as des souvenirs de ce moment-là? Et pour elle, elle a fait un blocage. Elle dit, je ne pourrais même pas te dire, il y avait combien d'hommes dans le sous-sol? Elle dit, lorsque j'ai entendu les pas qui descendaient, a dit, j'ai eu un blocage, mon cerveau s'est fermé. Et à ce moment-là, elle ne se souvient plus de ces 2 journées-là. Et même à un certain moment, elle ne pensait peut-être même pas ressortir du sous-sol. Et finalement, les gens qui étaient présents ont dit, non, c'est correct, tu vas pouvoir sortir, mais ne le dis pas et ne fais rien. Et c'est pour ça que même cette dame-là, hier, s'est ouverte à moi. Mais ça faisait... Elle avait déjà affirmé qu'elle avait été victime d'un viol collectif, mais c'était la première fois qu'elle en parlait en détail. Et c'est pour ça que toute l'émotion est ressortie, en fait, pour cette femme-là. Et je vous ai parlé un petit peu plus tôt également de... On va aller écouter un autre témoignage de qui nous dit que parfois, les hommes sont également très violents à son égard.
J'ai eu peur parce que le client voulait pas payer au début, puis il m'a pris par la gorge. Fait que, dans le fond, j'ai pogné mon téléphone tout de suite, puis j'ai appelé ma boss. Fait que je l'ai menacé de le mettre dehors. Puis j'avais une autre fille qui travaillait avec moi, fait qu'elle est venue m'aider. Ça, c'était une des pires situations.
Wow.
Donc, ces femmes sont vraiment seules avec elles-mêmes. Et là, m'a été chanceuse à ce moment-là parce qu'il y avait une autre travailleuse du sexe qui n'était pas loin. Peut-être qu'elle a crié, elle a pu lui venir en aide. Mais somme toute, ce sont des situations qui sont extrêmement, mais extrêmement difficiles. Et comme tu le disais d'entrée de jeu, on se demande pourquoi elles sont encore là. Mais des fois, c'est pas un choix de vie qui est nécessairement facile à faire et elles sont là parce que
mais parce qu'il y a de la demande, visiblement.
Il y a de la demande aussi et elles ont été élevées pour la plupart aussi dans un processus qui ressemble à ça. C'est-à-dire que j'ai parlé avec une des femmes qui a pas voulu témoigner nécessairement, mais elle a été abusée sexuellement à l'âge de 14 ans et elle évoluait dans ce milieu-là déjà à la base. Donc aujourd'hui, ça fait plusieurs années qu'elle pratique ce métier-là. Ouais. Ce n'est pas nécessairement par choix et elles se disent, je ne vaux pas plus que ça. Je mérite ce qui m'arrive. Alors, au niveau de l'estime d'elle-même aussi, c'est extrêmement, extrêmement difficile.
Mais ce qu'on comprend aussi, c'est qu'elles sont les premières cibles et des victimes faciles pour des détenus comme Galési qui sortent, alors que finalement, ils sont à risque de commettre des actes. Je veux dire, il y a le Journal de Montréal qui a rejoint une ancienne conjointe de ce gars-là, qui est visiblement un criminel. Il a déjà tué une ancienne conjointe. Il est en prison pour ça. Là, on le libère. On lui donne accès à une travailleuse du sexe qui paye avec visiblement de l'argent qu'il a pu mettre de côté parce que quand tu es en maison de transition, de ce que je comprends, c'est logé, nourri.
Oui.
Il y avait une petite jobine. En tout cas, il a proposé 2 000 $, c'est ça, pour les services de cette escorte. Mais il n'y avait aucun moyen pour le pour cette femme-là, cette jeune femme-là, mais pour son employeur de savoir si ce gars-là était violent ou pas, là.
Non, effectivement, il y a, dans certains médias, on rapportait que Eustachio Galizé aurait été banni de ce centre de massage-là du côté de Québec. Mais après ça, si la travailleuse du sexe désire quand même obtenir, ben, je veux dire, passer à l'acte et de rencontrer cet individu-là à l'extérieur, que ce soit dans une chambre d'hôtel, à la résidence de l'homme ou dans un véhicule, ben, à ce moment-là, c'est cette femme-là qui prend aussi le risque.
Ouais.
Mais la question que j'aime me poser, c'est-à-dire, oui, bon, ces femmes-là, elles n'ont pas choisi nécessairement ce métier-là, mais je me dis tout le temps, oui, on peut les victimiser, ces femmes-là, mais pourquoi les hommes sont violents envers ces femmes-là qui, en fait, exercent un métier, tout comme toi et moi, présentement, nous sommes à la radio, il n'y a pas un individu qui va arriver ici, il va nous crier dessus. Elles m'ont dit souvent que quand l'homme paye, il veut obtenir tout. Et la femme devient un objet, en fait.
Non, c'est sûr. Mais tu sais, j'ai Jacqueline qui m'écrit là, la question qui tue, pourquoi continue-t-elle dans cet univers de violence?
Oui.
Bon, tu viens d'y répondre un peu, mais c'est toujours... c'est bizarre qu'on fasse toujours... qu'on pose la question de ce côté-là et non pas qu'on se demande pourquoi il y a encore des hommes qui veulent à tout prix abuser de femmes comme ça. Mais bon, plus largement, merci beaucoup Sabrina Rivet. En tous les cas, je pense que c'est important d'entendre ces témoignages de femmes qui ont été violentées, agressées par des clients violents. Puis ça nous amène à notre question de ce matin, le sexe en prison, en liberté surveillée. T'es en maison de transition, t'es un ancien détenu, t'es-tu obligé d'avoir des rapports sexuels? Il y a les roulottes du sexe, il y a le mariage en prison. Je vous rappelle que Luca Rocco Magnotta, il s'est quand même marié il y a une couple d'années. Ce gars-là, il a dépecé quelqu'un. Une fois en prison, il a mis une annonce parce qu'il voulait rencontrer quelqu'un. Il a mis une annonce sur un site, là, Canadian Inmates. Là. C'est un site pour les criminels en prison qui veulent rencontrer du monde. Puis une fois que tu te maries, ben, tu as le droit à la roulotte du sexe où tu peux avoir des rapports sexuels. Mais dès que tu es en maison de transition, tu as accès à des salons de massage, à des escortes, à des travailleuses du sexe. Puis là, on vous en fait la démonstration ce matin. Toutes des femmes qu'il est littéralement impossible de protéger. Moi, je vous pose la question, là. Le sexe en prison ou en maison de transition ou en liberté surveillée, c'est-tu un service essentiel, ça? On a justement quelqu'un qui répond à cette question tout de suite après la pause. Et vos commentaires là-dessus, 514-790-9850. Je vous pose la question ce matin. Est-ce que vous estimez qu'avoir des rapports sexuels quand on a été trouvé coupable d'un crime, ça devrait être effectivement considéré comme un service essentiel? Puis pourquoi je vous pose la question? Ben, vous savez qu'une jeune femme a été assassinée dans un hôtel à Québec par un criminel qui avait déjà tué une femme. Un homme dont on sait qu'il est violent, dont on sait qu'il est toujours sur la ligne de péter sa coche, visiblement. Son ex-conjointe, une ancienne conjointe de Eustachio Galizé, dit que ce gars-là, il aurait dû être dans un hôpital psychiatrique et non pas dans une maison de transition. Mais c'est toute la question des rapports sexuels en prison qui est intéressante, je trouve, parce que il y a les fameuses roulottes du sexe. On a pris pour acquis que c'était normal qu'un gars emprisonné ait de temps en temps des rapports sexuels avec sa conjointe ou avec sa blonde ou avec toute autre personne qui enverrait une lettre. Vous savez qu'il y a des femmes qui envoient des lettres à des criminels là, parce que elles ont une passion pour ces gars-là. Tu peux te marier en prison. Puis une fois que t'es marié, t'as de facto accès à la roulotte du sexe. Tu peux aussi, en maison de transition, comme Galizé, avoir accès à des escortes, des travailleuses du sexe. Bref, est-ce que tout ça, c'est un service essentiel? Je pose la question à Michel Doret, qui est sociologue de la sexualité. Il est professeur à l'École de travail social et de criminologie à l'Université Laval. Bonjour, Monsieur Doret.
Oui, bonjour, Madame Maréchal.
Alors, est-ce que c'est essentiel d'avoir des rapports sexuels quand on a commis un crime, qu'on est en prison ou quand on est en liberté surveillée comme ça?
Vous savez, la sexualité, c'est un besoin qui est bien relatif. Il n'y a jamais personne qui est mort de ne pas avoir de relations sexuelles. Alors ça, il faut le rappeler, c'est un besoin relatif. Il y a des gens qui n'en ont pas pendant des années, qui n'en souffrent pas. Il y en a pour qui 3 fois par jour, c'est pas assez. Alors, et ce n'est pas surtout une pulsion incontrôlable. Au contraire, vous savez, hein, on est à l'époque de MeToo, du consentement et tout ça, et ça devrait faire partie justement de la réhabilitation de personnes comme celles dont on parle aujourd'hui, d'apprendre à se contrôler, à respecter les autres, à avoir de l'empathie pour les autres. Et c'est ça dont nous parle le consentement, le MeToo, tout ça. Une relation sexuelle, là, c'est pas se vider, vous excuserez l'expression, comme beaucoup de gars pensent, on n'est plus là maintenant. On n'est plus là. Et ça n'a pas de bon sens. Moi, j'ai trouvé ça troublant et extrêmement choquant que des gens qui s'occupent de libération conditionnelle de détenus ne comprennent pas que, justement, un élément clé pour que cette personne-là ne mette plus personne en danger, c'est d'apprendre à développer de l'autocontrôle. Et ça inclut effectivement la sexualité. Puis vous savez, avoir de la sexualité, ça peut être dans sa tête, ça peut être faire son bonheur lui-même aussi. Mm-hmm. Ça peut être bien des choses qui ne mettront pas en danger, parce que, comme le reportage dans votre émission qui a introduit là, votre sujet l'a très bien montré, les travailleurs du sexe sont parmi les personnes les plus vulnérables qu'il n'y a pas.
Ouais.
Alors, mettre un gars comme ça qui est un prédateur qui a déjà été dangereux et qui est vraisemblablement encore très à risque, c'est écouter, c'est chercher de trouble, c'est mettre la vie de gens en danger.
Mais comment ça se
fait? C'est très paradoxal, c'est de dire, ouais, ben, regarde, la sexualité, ça ne se contrôle pas, là. Paye du monde, puis alors que le message qu'on devrait y envoyer, c'est le contraire. Regarde, là, la clé de ta réhabilitation, c'est le contrôle de toi-même.
Exact, exactement. Pour vous, Michel Doré, est-ce qu'il faudrait revenir sur cette décision qui semble être unanime dans le milieu, là, que les gars qui ont commis un crime ont des permissions pour rencontrer des femmes pour assouvir leurs besoins sexuels? Est-ce que cette décision-là qui fait qu'on va développer des stratégies, là, moi, ce mot-là, ça me fait sauter depuis une semaine, l'idée qu'on ait pu, qu'une agente de libération conditionnelle ait pu développer une stratégie avec un criminel pour le libérer, qu'il soit en maison de transition, pour qu'il puisse, sur la base de ses besoins sexuels. Ça me dépasse.
Oui, ben écoutez, à ce moment-là, est-ce qu'un, par exemple, un prédateur pédophile, on va lui permettre d'aller voir des enfants lors de sa libération?
Ha! Ben voilà.
Vous comprenez, là, c'est une logique qui n'a pas de sens. À sa face même, cette logique-là ne tient pas debout. D'ailleurs, c'est la logique qui est souvent évoquée par les prédateurs sexuels qui disent « c'est plus fort que moi, je ne peux pas me contrôler, c'est une pulsion ». Alors, est-ce que les agents de libération conditionnelle maintenant sont obligés de dire « oui, pauvre toi ». Alors, s'il faut des femmes, oui, des petits gars ou des petites filles, vas-y. Ça n'a aucun bon sens. Parce que la réhabilitation, en fait, telle qu'on l'a toujours fait depuis tout le temps, ça a été le contraire de ça. D'apprendre à se contrôler, à voir que, OK, tu as des besoins, mais les autres ont des besoins. Avec toute l'affaire MeToo, puis du consentement, c'est ça qu'on dit à tous les gars en général, pas seulement aux prédateurs. On regarde, là, tu as des besoins, mais les autres ne sont pas obligés de dire oui. Contrôle tes besoins, respecte les autres, mets-toi à la place des autres. Et ça, écoutez, s'il y en a qui doivent l'apprendre, c'est les détenus qui peuvent mettre des personnes en danger.
Et de l'intérieur même de la prison, là, parce que moi, on m'a raconté des histoires comme quoi il y avait des gars en dedans, là, ils ont accès à Internet, ils ont la télé, mais maintenant, avec Internet, le téléphone cellulaire, on l'a vu l'autre jour, là, tu peux avoir un téléphone cellulaire, il y avait un gars qui parlait avec la victime de son crime pendant qu'il était en prison. Ça fait à peu près n'importe quoi. Apparemment qu'il y a même des proxénètes ou des prédateurs sexuels qui ont accès à toutes sortes de matériel pornographique et pédophile en prison. Ouais. Je veux dire, comment contrôler ça?
C'est inciter des gens déjà criminalisés à commettre d'autres crimes, ça n'a pas de sens. Ça ne peut pas faire partie de la réhabilitation de dire, regarde, vous savez, d'aller voir le travail du sexe, c'est quand même criminalisé. Les clients sont criminalisés jusqu'à un certain point au Canada.
Pas tant, finalement.
Ben, pas tant, mais enfin, ils le sont sur papier, disons ça comme ça. Mmh. Mais on devrait pas inciter les gens à commettre des crimes. Ça n'a pas de bon sens. Ils sont en prison pour se réhabiliter. Alors, écoutez, il y a un problème de compétences. Ça, c'est certain, de la part de certains agents de libération. Il y a un problème aussi de formation. La sexualité, ce n'est pas une pulsion incontrôlable. Il faut justement que les gens qui ont des problèmes avec ça apprennent en premier lieu à se contrôler avant de mettre des personnes en danger. Écoutez, il y a un manque, là. Il y a plusieurs manques.
Puis la prison, c'est pas aussi, d'après ce que j'avais compris, là, c'était quand même la fin d'une certaine liberté. Donc, dans la liberté, il y a la liberté de baiser quand tu veux. Fait que le fait de pas avoir ce droit-là, ça fait partie du fait d'être un peu puni pour le crime que tu as commis, non? Il n'y a pas ça là-dedans?
Effectivement, surtout quand tu mets des gens en danger. Tu sais, là, on n'est pas en train de parler du gars qui est marié, qui a fait un vol, puis qui voit sa femme. Là. C'est pas de lui dont on parle.
Non.
On parle des gens qui ont commis des crimes, qui ont tué, qui ont mutilé, qui sont des prédateurs qui ont fait des meurtres, des viols. C'est de ça dont on parle. Des gens qui ont peu de contrôle d'eux-mêmes, qui doivent, dans un premier temps, et souvent ça va prendre des années, apprendre à se contrôler. Et c'est ça qu'on doit rappeler. Et c'est désolant de voir que nous, on doit rappeler ça aux gens qui s'occupent des libérations conditionnelles, notamment. Regardez, votre premier devoir, c'est la réhabilitation. Mon gars, apprends à contrôler, apprends à respecter les autres, apprends à avoir l'empathie pour les autres. Déconstruis là, ton idée que ta pulsion, c'est incontrôlable. Parce qu'il va dire, ben, ma pulsion de tuer, c'est incontrôlable. Ma pulsion de violer, c'est incontrôlable. Non. Les pulsions, ça se contrôle. Dans une vie, c'est ça la vie en société.
Ah ouais.
C'est contrôler les pulsions parce qu'on est obligé de respecter les autres.
Merci beaucoup, Michel Dorais, sociologue de la sexualité, merci. Prof à l'Université Laval en criminaux. On a Nikki qui nous appelle. Ce n'est pas son vrai nom, bien sûr. Nikki est une escorte. Bonjour, Nikki.
Oui, bonjour, Isabelle.
Merci de nous appeler. Qu'est-ce que vous voulez dire par rapport à tout ça? Le sexe est-il essentiel en prison ou pour les gars en liberté surveillée?
Ben, c'est sûr que par rapport à votre question, c'est inacceptable, comme l'intervenant qui a affirmé, dans la conversation que vous aviez avec lui, c'est inacceptable. C'est sûr que ça se fait pas, là. C'est de mettre en
danger. Mais on le permet, là. La loi le permet, Nikki, là.
Non, mais ça a pas de bon sens. Ça a aucun bon sens, tu sais. Ça l'a mis en danger des travailleuses du sexe, puis ça va continuer encore. Moi, ce que je peux dire, c'est peut-être un petit peu hors contexte. Moi, je suis une escorte, OK, depuis quelques années. Moi, je peux dire qu'il y a moyen de diminuer les risques en ce qui a trait comment sélectionner un client. Mm-hmm. Quand on est une agence, quand on travaille pour une agence, on n'a pas le choix de prendre le client qui nous est attitré. On comprend, c'est eux qui reçoivent l'appel et tout. Et la fille n'a pas le choix, elle est avec le client. Il n'a pas été évalué, il n'a pas été au niveau texto, il y a moyen de déceler certaines choses. Moi, ce que je fais, je suis une escorte indépendante, j'ai jamais eu trop de problèmes, OK? Moi, ce que je fais en texto et parler au téléphone, je peux détecter, si le client me dit « est-ce que tu consommes? » Moi, je dis non, je ne consomme pas. Mm. Je ne bois pas, je ne consomme pas. Déjà là, vous éliminez 30 à 40 des risques. Mm-hmm. Parce que souvent, les agressions vont avoir lieu quand les gens ne sont pas à jeun. Souvent.
Oui.
Alors, moi, j'élimine les gens qui sont sur le party.
Mais avez-vous un sixième sens pour dételer les psychopathes ou les violents?
Moi, j'ai une formation. Moi, je suis infirmière auxiliaire de formation, OK? Encore avec une licence active. J'ai travaillé longtemps en psychiatrie. C'est peut-être le plus que j'ai par rapport aux autres. Mais il y a moyen de déceler. Quand on prend pas des clients qui sont sur le party ou tout ça, il y a moyen. Et puis, quand on se déplace dans une résidence, s'il vous plaît, ne pas descendre dans un sous-sol. C'est trop risqué.
Ah, non, c'est ça. C'est ça.
C'est parce que là, tu te ramasses coincé. Moi, quand je me déplace, mettons dans un appartement, un 4,5, n'importe quoi, je me permets d'ouvrir les portes quand elles sont fermées. Le gars, il n'a pas le choix.
Ouais,
excuse-moi, est-ce que tu es seul ici? Je rouvre les portes. Moi, j'ai été me chercher une formation d'arts martiaux depuis longtemps.
Nikki, je vais vous poser une question parce que là, vous avez sans doute fait réagir mes auditeurs en ce moment. Quand vous dites que vous êtes infirmière, que vous avez d'ailleurs le droit...
Je suis plus à la retraite.
Pourquoi vous êtes escorte?
Parce que c'est payant. Je vais répondre la même question parce que ça paye. C'est un très bon revenu. Et quand tu le fais proprement, moi, je ne prends pas de drogue ni cigarette et je ne bois pas. Je suis straight. Mm-hmm. Et il y a moyen. Moi, je suis peut-être dans le 1 ou 2 % des filles
ça.
Qui le font. On se comprend.
Ouais.
Parce que la moyenne des filles viennent de milieux défavorisés, ont vécu plein de problèmes, comme ça a été énuméré, des problèmes de comportement. Moi, je suis dans le minime pourcentage où je le fais de façon indépendante et organisée et de façon sécuritaire. Et je sélectionne mes clients.
Et vous, c'est un véritable choix, là, de ce que je comprends.
C'est un véritable choix. Fait que c'est pour ça, moi, ça m'agace un petit peu quand on entend toujours « Ah, oui. » La plupart le font parce qu'elles n'ont pas le choix, la vie est difficile et tout. Mais moi, je le fais par choix depuis des années.
Mais vous le dites
et
vous-même, Vicky.
Là-dedans.
Vous êtes une exception dans
oui,
le milieu.
Je sais.
Vraiment, là. Et ce qu'on voit beaucoup par les temps qui courent, c'est des filles de plus en plus jeunes. Qui sont victimes, qui viennent de familles plus ou moins dysfonctionnelles.
Oui.
C'est pas parce que tu vas bien
là,
que tu fais ça quand t'as 14 ans, 18 ans, 22 ans. Là.
Oui.
Mais en même temps, ouais.
Il faut savoir qu'il y a des exceptions comme moi aussi.
Ouais.
Comme moi, j'ai des gens d'affaires comme clients, j'ai de toutes les couches. Mais moi, j'établis
des relations. Mais vous, faites-vous des relations sexuelles complètes?
Parce que massage quand on dit, et oui, service complet également, okay. Oui.
Mais quand vous dites c'est payant,
là, rendez-vous,
c'est payant comment? Là? C'est-tu à ce point payant que vous acceptez quand même de mettre votre santé physique et à risque?
Tout est fait de façon sécuritaire. Tout est avec condom, là, on s'entend. Là, ouais. Tout est, je ferai pas.
Mais
je
à moins pas, d'attacher le client, là, puis c'est peut-être une demande que vous avez remarqué. Mais à moins de l'attacher, le gars, comment vous pouvez être sûr qu'il va pas vous prendre à la gorge ou?
Parce que moi, avant le rendez-vous, les clients, là, la façon dont ça fonctionne, quand ils textent plus qu'ils appellent, maintenant c'est plus le texto.
Ouais.
Ils demandent. Là, on envoie une liste de tarifs et de prix. Et là, ils posent des questions. Bon, est-ce que ça tu le fais avec ou sans condom? Est-ce que ça comprend quoi à ton service? Moi, je suis claire. Okay. Alors là, moi, j'ai pas de problème. Quand les clients se présentent, là, il y a leur juste. Parce que moi, j'ai pas dit... parce que certaines filles ont des problèmes, il faut pas oublier. Certaines filles ont des problèmes parce qu'elles disent oui, je fais ce que tu demandes. Et quand les clients arrivent, elle se fait payer des extras et elle n'effectue pas le service demandé.
Ben, des fois, les filles font ça parce qu'il y a un PIM derrière qui dit, toi, là, t'as intérêt à faire des clients.
Exactement.
Sinon, check bien ta face tout à l'heure.
Ah, ouais. C'est ça.
Hey, Vicky, c'est très intéressant ce que vous nous racontez parce que vous nous plongez dans un domaine qu'on connaît peu.
Oui.
Je vais rester en ligne. Moi, je serais assez ouverte. Je sais pas si ça vous tente, mais que vous veniez à l'émission puis qu'on ait une véritable conversation sur comment ça marche dans cette industrie-là, parce que je pense que les auditeurs ont besoin de savoir comment ça se passe. Merci beaucoup de votre témoignage.
Ben, merci beaucoup.
Restez en ligne. Merci bien.
Merci.
Il y a tellement de choses qu'on connaît pas sur ce monsieur-là. Puis je pense que c'est important parce que ça démystifie beaucoup puis ça évite les préjugés. En tout cas, sexe essentiel en prison, visiblement, il y a bien du monde qui commence à dire non, il faudrait sans doute revoir les conditions de libération conditionnelle puis même à l'intérieur des murs de la prison. Et toutes les roulottes du sexe et tout ça. Bref, on aura l'occasion de s'en reparler. On va s'arrêter ici tout de suite après la pause. Je vais vous poser la question concernant les fameux sacs de plastique. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on s'en débarrasse complètement? C'est ce que demandent aujourd'hui les détaillants, ceux qui vous vendent des choses à mettre dans des sacs. À tout de suite, tout le monde.